France Culture.
Bonjour Catherine Destivelle.
Bonjour Nima.
C'est le cinquième et dernier épisode de notre série. Toute la semaine, on a parlé de votre carrière sportive et de vos grandes ascensions. En 97, vous êtes triple championne du monde d'escalade. Vous êtes rentrée au panthéon des alpinistes avec l'ascension des grandes faces nord des Alpes. Dans un sens, vos grands exploits sont derrière vous, mais à ce moment-là, vous avez que 35 ans. Comment est-ce que vous envisagez votre vie d'après ?
Alors, ma vie d'après, j'ai pas envisagé. J'ai juste eu envie d'avoir un enfant. Du coup, voilà, j'ai fait un enfant. Je me suis appliquée à le faire comme je fais tout à peu près à fond. Donc, j'ai eu Victor. Et comme j'étais assez mère poule, je m'en suis occupée beaucoup. Et j'ai été comme une maman à la sortie de l'école à 4 heures tous les jours. Du coup, j'avais pas très envie d'aller en expédition. Pas tellement, non, j'étais bien. J'ai beaucoup moins grimpé parce que j'en ressortais moins le besoin, ou je sais pas. Bon, après, j'ai de quoi je vivais. Alors, j'avais beaucoup de conférences en entreprise, donc je faisais pas mal de conférences, j'ai fait des films, j'ai fait des trucs comme ça, mais j'étais assez libre et disponible, du coup, pour Victor. Puis après, Victor est rentré en internat, parce que lui, sa vie, c'était différent, il voulait faire de la musique, donc on était en musique-études.
Est-ce que vous lui avez transmis ce que vos parents vous ont transmis à vous, c'est-à-dire une grande confiance en soi ?
Oui, je crois pouvoir dire, je l'ai éduqué un peu comme mes parents m'ont éduqué, assez libre, assez responsable, assez puis surtout lui donner des différents outils pour avoir des passions. Donc la passion, c'est quand même formidable d'avoir une passion qui peut orienter toute une vie. Donc il a fait un peu de sport, il a fait un peu de musique, il a fait un peu de, voilà. Et il se trouve que à 14 ans, ou je sais pas quel âge, il m'a dit ça. Il m'a dit le seul truc qui me donne des frissons, c'est la musique. Je dis voilà, c'est après on oriente en fonction quand même, on aide à orienter, savoir est-ce qu'il est doué, est-ce que ça peut aller, est-ce que faut pas l'emmener dans une carrière, dans une voie d'échec. Mais là il semblait que c'était bien.
Il fait du trombone.
Oui, il fait du trombone. Et il était les profs en tout cas, ils croyaient. Donc c'était parfait. Puis à l'école, il était excellent. Donc pas de raison de lui dire non.
Et est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière de grimper, d'avoir un enfant qui vous attend en bas, et notamment dans vos prises de risques ?
Non, ça m'a. Comme j'ai jamais eu l'impression de prendre des risques, j'ai jamais eu ce sentiment-là. Après, attendre en bas, non, il attendait à la maison bien encadré, parce que j'aimais pas aller grimper dans les falaises. Je vois plein d'enfants, qui ont des parents qui viennent avec leurs petits au pied des falaises. Je trouve ça pas terrible, quoi. D'abord, nous, on peut pas se concentrer. L'enfant, parfois, il peut s'ennuyer. Enfin, c'est pas un lieu génial. J'emmenais pas Victor au pied des parois avec moi. Je le laissais tranquillou à la maison. Après, aller grimper avec lui, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on s'occupe de lui, c'est un jeu et on va jouer ensemble. Mais pas le laisser planter au pied.
Non, mais ce que je veux dire, c'est aussi d'avoir quelqu'un qui nous attend à la maison et qui compte sur nous. Est-ce que ça change
Oui, oui, ça, j'ai compris risque. Aussi. Alors ça, non, ça change pas parce que non, j'ai jamais eu cette impression de prendre des risques. Du coup, je m'absente 2 jours. Puis je reviens, mais je ne l'ai pas fait beaucoup. Je ne suis pas partie très, très, très longtemps loin de lui. Peut-être par an, je faisais peut-être une semaine par an et encore.
Et on a parfois l'image des marins qui sont malheureux sur la terre ferme et qui se sentent bien que quand ils sont en mer. Est-ce que vous avez cette sensation-là ? Comment vous vous sentez quand vous grimpez pas, quand vous êtes en bas ?
Alors, quand je grimpe pas, je me sens plutôt bien. Je peux ne pas grimper pendant des jours et des mois. Enfin, c'est pas trop un souci. Après, j'aime bien quand même faire du sport, enfin bouger. Parce que je sais qu'après, je me sens mieux. Mais je suis obligée de me forcer pour le. Parce que le seul truc qui m'amuse vraiment, c'est l'escalade. Du coup, grimper, ça fait bouger. Mais, c'est un peu compliqué aujourd'hui avec mon métier d'éditrice, où je suis beaucoup derrière l'ordinateur. je suis obligée de me forcer à bouger. J'essaye d'organiser mes journées pour me libérer une demi-journée pour aller grimper. Et là, ça me fait du bien. Mais voilà, par exemple, ça fait 3 semaines que j'ai pas touché le rocher. Reprendre l'escalade tout de suite, là, je me dis, de toute façon, je vais être nulle. Donc, presque, j'ai envie de dire, je reprendrai bien quand je serai enfin tranquille. Parce que allez, grimper à un niveau de nul, ça me... Enfin, ouais, je suis un peu exigeante en plus. Je préfère aller à la piscine, hein, que t'as qu'à faire. Si je veux bouger ou marcher ou... Ouais, par exemple, quand je suis à Paris, je me dis, bon, allez, je vais aller d'un rendez-vous à l'autre à pied. Bon, ça fait bouger, hein, c'est bien. Mais ça fait du bien et ça suffit. Mais aller grimper pour aller grimper, en plus, à Paris, il y a plein de monde partout.
Dans les salles, vous.
Dans les salles, ouais. C'est terrible. Mais voilà, donc je suis pas assez dans le mood de l'escalade pour me dire, allez, j'y vais quand même pour garder le niveau. Mais là, le niveau, je l'ai pas, donc je ferai ça plus tard.
Est-ce que justement, vous dites le niveau, je l'ai pas, ou peut-être je l'ai plus. Est-ce que vieillir pour une athlète de haut niveau, qu'est-ce que ça change dans son rapport au corps ?
Ça change pas grand-chose en fait. Moi, ce que j'aime, c'est le jeu de l'escalade. Donc, ce que j'aime, c'est découvrir des rochers que je ne connais pas, ou des voies, des petites. J'aime jouer avec la roche et je m'en fous de. Ok, j'ai pas le même niveau et alors, de toute façon, c'est normal parce que je grimpe plus assez pour être au top. Donc, je me satisfais avec ce que j'ai. Et puis, quand je reprends régulièrement, c'est-à-dire 2-3 fois par semaine quand même, là, je retrouve un certain niveau et là, je me fais plaisir. Et puis après, je deviens un peu challenging. Je me dis, là, ce qu'aujourd'hui, je vais essayer de faire telle cotation. Et puis je progresse. Mais en fait, en vrai, c'est vrai que techniquement, je tiens la route encore. Ce que je tiens pas bien, c'est les prises. Quand c'est déversant, quand c'est un peu physique, du coup, là, je peine plus là-dessus, mais je retrouve un niveau assez correct, assez vite. Après, dès que je regrimpe un peu plus, ça revient, hein, en fait.
Et avant de monter votre maison d'édition, donc vous dites j'élève mon fils, et dans le quotidien, quand vous grimpez pas, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous dites que vous aimez la musique, vous allez voir des expos, vous êtes aussi une vivante, quoi. Il y a plein de choses que vous aimez, en fait.
Ouais, et puis ça me manque. Si je ne fais qu'une activité, si je fais que grimper, par exemple. À un moment donné, quand je faisais de la compétition d'escalade, je culpabilisais parce que je ne grimpais pas toute la journée. Je ne pouvais pas. Je pouvais grimper le matin ou l'après-midi, mais pas toute la journée. Parce que ras-le-bol, quoi. Enfin, j'aime bien grimper, mais j'aime bien faire autre chose. J'aime bien lire, j'aime bien aller au cinéma, j'aime bien faire autre chose. Et j'avais besoin d'une ouverture. Et je culpabilisais parce que je voyais bien, mais tous les grimpeurs, enfin les grimpeuses surtout, il y en a qui faisaient que ça, qui pensaient qu'à ça. Et moi, je me disais, oh là là, et moi, je devrais faire pareil. Et je le faisais pas parce que j'ai pas envie. Enfin, j'avais besoin d'oxygène, quoi.
Et votre oxygène, c'est quoi, du coup, à part l'escalade ?
Bouquiner. Alors aujourd'hui, prendre un livre tranquille dans un coin, pendant les vacances, je fais ça. Je coupe complètement et je prends les livres que j'ai repérés durant l'année qui vont me permettre de m'évader, quoi. Parce que lire, c'est une évasion pour moi.
Et lire pour le plaisir, vous lisez des livres de montagne ?
Ah non, rien à voir, non. Ah non, surtout pas. Autre chose. Mais non pas que... cet été, j'ai lu un livre de mon... J'ai reçu un manuscrit, puis j'étais complètement fascinée par le manuscrit. Donc, ça m'a plu aussi de le lire. Et en me disant, en plus, je vais le publier. Donc, à la fois, je suis en vacances, en même temps, je me fais plaisir. Et en même temps, tout va bien.
En 2011, vous vous relancez dans une nouvelle aventure. Donc, vous avez 51 ans. Vous montez les éditions du Mont Blanc, qui édite des livres qui sont liés à la montagne, des livres de photos, des polars, des BD, des récits. Comment vous en êtes venue à devenir éditrice ?
Pur hasard. J'ai commencé un premier livre, deuxième livre, troisième livre, puis en fait j'aime ça, quoi. J'ai publié 140 titres, hein, quand même. c'est super intéressant, hein, de créer des livres. Surtout essayer de transmettre mes connaissances et essayer de faire toucher du doigt aux gens ce qu'est l'alpinisme ou l'escalade. C'est un peu de la transmission, mais en essayant d'être très pédagogique, d'être très... en tout cas, ce qui concerne les livres pour enfants ou les livres ou même les récits. Il y a les récits que je publie. Ce que j'espère, c'est que les gens apprennent des choses sur pourquoi ils font tout ça, pourquoi ils risquent leur vie, pourquoi toutes les questions que se posent les gens quand ils voient des alpinistes risquer leur vie, quoi.
Est-ce que vous avez des livres de montagne qui vous ont particulièrement marqué, enfant, mais aussi dans votre vie d'adulte?
Alors enfant, pas tellement. C'est des livres pour enfants. C'était Heidi ou Belle et Sébastien ou le feuilleton là, télévisé. Ça me marquait énormément. Ça m'a beaucoup marqué et je rêvais de ça. Après, j'ai jamais lu de récit, jamais. J'étais dans le faire plutôt que dans le lire. Et du coup, j'ai jamais éprouvé le besoin. Et peut-être que ça m'a préservé d'ailleurs. Ça m'a permis d'avoir un œil complètement neuf et néophyte. Je suis là, j'ai envie de faire ça sans suivre de modèle. Juste parce qu'on m'a parlé de... Voilà, parce que j'ai parlé avec des gens qui grimpaient aussi, qui disaient « Ah tiens, on pourrait aller faire ça », sans me rendre compte de ce que c'était d'ailleurs. Mais c'était aussi bien, parce que du coup, ça ne faisait pas peur. J'ai lu beaucoup d'autres livres, mais pas des récits de montagne. Voilà.
Est-ce qu'il y a un lien entre porter seul une maison d'édition et se lancer seul dans l'ascension d'un sommet ?
Il y a un lien dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on entreprend. Est-ce que je prends des risques? Est-ce que je prends pas des risques? Comment je vais faire pour pas prendre de risques? Etc. Par exemple, sur une année, je vais publier, admettons, entre 12 et 15 livres. Il y a des livres, je sais que ça va pas super bien marcher, mais j'ai envie de le faire parce que ça me plaît. Et que je pense que ça me ressemble, plutôt, on va dire comme ça, que par exemple, il y a un livre qui s'appelle Crack Climbing, c'est comment grimper les fissures. J'adore la fissure, moi. Et il y avait aucun ouvrage là-dessus. Je me suis dit, c'est top, je vais le publier. Qui c'est qui va acheter ça? C'est très technique, mais ça m'amusait de le publier parce que ça fait l'ADN de la boîte d'édition. Mais ça, c'est très spécialisé, donc forcément, ça va pas bien se vendre. Et à côté de ça, je vais publier un livre beaucoup plus grand public sur... Par exemple, un polar, j'ai eu Philippe Kerr comme auteur. Enfin, j'ai retrouvé une vieille traduction d'un livre qui s'appelait Les Ahus, qui se passe dans le sanctuaire des Annapurna, et c'est un livre d'alpinisme. Incroyable. Donc voilà, ça, je sais que ça va fonctionner, évidemment. Et puis, à côté de ça, je vais publier, par exemple, Nîmes Purja, les 14 sommets de plus de 8000 mètres en 6 jours. Le film était sur Netflix. J'ai récupéré son bouquin, je l'ai publié en français, ça marche. Voilà, des choses comme ça, ça marche. Mais de temps en temps, je me permets de faire un truc un peu plus pointu. Voilà, ou même des récits un peu plus pointus, mais qui me parlent à moi et puis qui parlent à une certaine communauté. Mais en général, c'est quand même assez grand public ce que je publie, parce que, mine de rien, on est sur le fil du rasoir au niveau de l'économie. Enfin, c'est très tendu, et tous les éditeurs le disent, les libraires aussi, ce sont des métiers de passion, mais économiquement un peu tendu. Mais malgré tout, c'est étonnant. Hein, quand on est passionné, c'est jour et nuit, quoi. On pense qu'à ça, on fait que ça, c'est complètement pris par le... Puis on a tellement envie de bien faire aussi, que ce soit beau, que ce soit bien, qu'il n'y ait pas de faute, que tout soit bien clair et bien présenté. C'est une exigence de chaque instant, mais comme l'est l'alpinisme aussi, on est toujours exigeant. Exigeant au niveau, à tous les niveaux, la sécurité, le matériel, les compagnons cordés, on laisse rien au hasard.
Je rebondis sur ce que vous dites, il faut que ce soit beau, parce que vous éditez aussi des beaux livres.
Ouais.
Et vous avez dit que c'est surtout votre père qui vous a initié à l'escalade. Mais comme maintenant vous éditez des livres d'art, est-ce que dans un sens, ça vous vient un peu de votre mère?
En tout cas, ça me replonge dans l'enfance. Parce que, ma mère avait donc fait les beaux-arts et il y avait beaucoup d'artistes qui passaient à la maison pour montrer leur travail. Et puis, on allait beaucoup voir des musées, des expos. Mes parents étaient assez ouverts à ça. Et du coup, par exemple, le prochain livre qui s'appelle Mont Blanc, le regard des peintres, ça me replonge dans cet univers complètement. Et puis, je m'aperçois que malgré tout, les parents m'ont inculqué une façon de regarder. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont complètement insensibles à la peinture. Moi, j'avoue que je suis un peu plus parce que J'ai été initiée, on va dire, plutôt comme ça. Et puis à la maison, il y avait un atelier de peinture, on pouvait peindre. Mais c'est que maintenant que je m'aperçois de cet héritage.
De l'héritage de votre mère?
Bah oui. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça me replonge dans... Voilà, et puis on compare les tableaux. À la maison, il y avait sans arrêt, on comparait le tableau des uns et des autres. Leur travail, qui était... voilà, et les pauvres, ils galéraient pour gagner leur vie, tous. Et voilà, c'était intéressant de les voir passer, et puis de regarder aussi les œuvres, savoir pourquoi ça marchait pas si bien, et pourquoi... Enfin, voilà. Bon, j'étais dans un milieu à la fois ingénieur et à la fois artiste.
Est-ce qu'il y a un lien entre les artistes et les alpinistes?
Je pense que oui. Moi, je ne l'ai jamais formulé comme ça, mais il y a des ouvreurs, ce qu'on appelle des ouvreurs, qui ouvrent des voies et qui se disent artistes, parce qu'ils créent une ligne, ils ouvrent une ligne et ils la choisissent en fonction de la direction, de la courbe, du type du rocher. Enfin, c'est un peu l'artiste. C'est aussi dans la gestuelle. Ouais, il y a des grimpeurs qui ont une esthétique, qui ça déroule, ça a l'air facile, etc. Puis il y en a d'autres, c'est vrai, c'est plus besogneux, parce que là, c'est leur façon de grimper.
En 2024, vous avez ouvert les Jeux Olympiques d'escalade. Est-ce que vous suivez les compétitions d'escalade et les nouvelles générations de grimpeurs et d'alpinistes?
Alors, pour être honnête, j'étais super surprise qu'ils m'appellent. Parce que c'est vrai que la première compétition a eu lieu en 85 à Bardonecchia. C'était là où j'avais gagné les premières compétitions. Et que là, on m'appelle pour faire ça. Je me dis, waouh, ça n'avait rien à voir avec les compétitions d'aujourd'hui. Hein. C'est nous, il y avait une compétition par an, on se pointait, on était peut-être 30 filles et 100 garçons, pas plus. Enfin, voilà. C'était on s'autoproclamait champion du monde. Donc, rien à voir. Mais bon, ils m'ont appelé. Et oui, alors je m'y intéresse grâce au livre, je dirais. Parce que j'ai publié un livre qui s'appelle Le 9e degré, toute l'histoire de l'escalade. Donc là, forcément, c'est David Champ qui l'a écrit, qui est de ma génération. On grimpait ensemble quand on était jeunes pour s'entraîner aux compétitions. Et du coup, lui, il a jamais quitté ce milieu et il s'est toujours intéressé. Donc lui, il connaît parfaitement. Mais du coup, quand j'ai publié le livre, j'ai appris plein de trucs. Donc effectivement, là, je le sais. Puis on a publié une BD qui s'appelle « Il était une fois l'escalade », coédité avec les éditions des Arènes. Et là, okay, c'est pas...
un très grand succès.
Ah oui, succès... incroyable. ouais, c'est incroyable. Et et c'est toute l'histoire. Et ça, c'est. Je suis maintenant. Je suis parce que ça m'intéresse. Puis je me dis, oulala, il va falloir mettre à jour là, nos bouquins. Parce que c'est vrai que les bouquins vieillissent. Si on ne met pas les dernières performances ou les derniers degrés gravis, par exemple à Damondra qui a fait le 9C en Norvège, bon voilà, ça, c'est la première édition, ça y était pas.
Oui, c'est-à-dire pour expliquer peut-être un petit peu ce que c'est que le 9C, c'est un niveau, c'est le plus haut niveau d'escalade jamais
atteint. Jamais... Alors, il faut dire qu'on peut gratter, d'après ce que je regardais, c'est à peu près 20 ans par degré. Mais aujourd'hui, avec l'essor des compétitions, les jeunes s'entraînent beaucoup mieux, beaucoup plus. Et du coup, on atteint, ça progresse. Et les filles surtout. Les filles sont presque à l'égal des garçons aujourd'hui. En tout cas à l'extérieur, ce serait intéressant de faire des compétitions où il y a garçons et filles sur la même voie pour voir. Je pense que oui, les filles sont pas loin et elles sont légères, assez souples. Ce serait intéressant.
Elles sont fortes.
Elles sont très fortes. Elles sont très fortes et parce que peut-être plus légères que les garçons et alors peut-être moins puissantes. Ce serait intéressant de voir comment ça se passe en compétition. Bon, ils ne l'ont jamais fait, mais c'est Linil qui était ma concurrente de l'époque, qui elle, réclamait à ce que ce soit qu'on ait les mêmes voix que les garçons, pour comparer nos performances.
Vous en avez parlé, il y a un essor assez fou de l'escalade aujourd'hui, avec l'ouverture des salles artificielles dans les villes, où on pratique l'escalade après le bureau, comme on irait au foot ou à la gym. Quel regard, vous avez sur ce nouvel essor de l'escalade, qui est plus devenu un sport plutôt qu'un état d'esprit?
Ouais, c'est devenu un sport. Je vais pas râler parce que moi, ça m'a fait beaucoup de bien et je suis contente que ça plaise à d'autres et que ça leur fasse du bien aussi. Après, ce qui est compliqué, c'est quand ça se, quand tant que ça reste en ville et en salle, c'est parfait. C'est convivial. C'est comme je le disais précédemment, c'est l'escalade permet de s'oublier, de juste grimper. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, on a arrêté la méditation parce que ça, l'escalade nous donne le même bien fait. Et puis, ce qui est agréable aussi, c'est que c'est assez gratifiant. On grimpe une voie facile, on arrive en haut, on est content, quoi. Et ça, pour tout le monde, que ce soit des enfants ou des adultes, on arrive au sommet de quelque chose, c'est palpable. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'activités qui donnent autant de satisfaction que l'escalade. Mais quand ça va sur les falaises dehors, c'est un petit peu moins facile. Il y a des gens qui savent à peine marcher sur des sentiers, ils vont aller grimper, mais ils savent pas être dans la nature, tout simplement, et la respecter. Et puis, il y a des falaises qui commencent à fermer à cause du monde.
On entend la fonte des glaciers, il y a des voies qui se sont effondrées, je pense aux piliers Bonatti que vous avez grimpé. Maintenant, il n'existe plus.
Ma voie non plus, elle n'existe plus.
Ouais.
Ça évolue. Ça évolue, les saisons se décalent. Maintenant, il y a les guides travaillent beaucoup plus en mois de mai-juin, juillet. Ça dépend des années. Mais en général, ils décalent les saisons. Puis il y en a même qui refusent de travailler comme guide en août, en disant c'est trop dangereux. Il y a des éboulements dans tous les sens. On préfère travailler soit en septembre, soit en juin, mais pas en plein été quand tout fond. Ouais, non, c'est un vrai souci et du coup, les professionnels sont obligés de s'adapter à ce problème pour pas prendre de risques.
Vos éditions, ça s'appelle les éditions du Mont Blanc. Vous êtes basé à Chamonix. Vous avez
aux Ouches.
Vous avez devant vos fenêtres le Mont Blanc.
Et
est-ce que la montagne, c'est un endroit qu'il faut protéger?
La montagne, il faut la protéger. Les gens font attention quand même. Faut la protéger. Alors il y a de la surfréquentation, genre l'ultra trail du Mont Blanc ou les randonnées, le tour du Mont Blanc, ça devient il y a un monde. Et là forcément, dès qu'il y a du monde, ça abîme les chemins. C'est forcément pas bon pour la nature. On la dérange quelque part. Mais en dehors de ça, ça va. Mais le problème, c'est le réchauffement. Et là, ça se voit à vue d'œil, quoi. C'est dingue. Tous les étés, la mer de glace fond, les névés qui étaient avant permanents disparaissent. La face nord de l'Eiger est devenue tout noire. Il n'y a plus de blanc, l'été. C'est fini. C'est tout gris et noir, quoi. Et c'est horrible. Et c'est vrai que c'est ça qui fait peur. Comment enrayer ça? Malheureusement, nous, simples citoyens, tout seuls, on peut pas faire grand-chose. Non, il faut que les politiques et les grosses entreprises et tous les gens réfléchissent à ça. Même pour les déplacements en avion, ce qu'il faudrait, c'est que ces avionneurs réfléchissent à des solutions moins polluantes. Enfin, tout le monde fasse un effort. Moi, par exemple, je fais un effort avec les éditions. Je fais imprimer en France, en espérant que ça réduise un peu l'impact par rapport au transport.
Vous avez reçu le Piolet d'or carrière en 2020. Dans votre milieu, c'est un peu comme gagner la Palme d'or. Et pourtant, quand on vous demande si vous en êtes fier, vous dites oui, mais vous semblez comme un peu gêné, comme si vous n'étiez pas à la hauteur de cette récompense, alors que vous avez une carrière extraordinaire. Vous avez une incroyable humilité, une volonté de pas vous mettre en avant. Comment ça se fait ?
C'est pas une volonté de pas me mettre en avant, c'est le fait que... C'est comme ce que je disais tout à l'heure. Je disais que je m'entraînais pas toute la journée. J'allais pas dans les falaises toute la journée. Mais l'alpinisme, j'ai pas pratiqué toute ma vie. J'ai pratiqué un peu. Et effectivement, j'ai fait des choses marquantes. Mais j'en ai pas fait beaucoup. Enfin, j'en ai fait, mais pas comparé à d'autres alpinistes qui ont eu le Piolet d'or avant moi, par exemple, quand je parle de Doug Scott ou Chris Bonington ou Reinhold Messner ou tous ces grands noms de l'alpinisme, Après, ce que dit le jury m'a décerné ce Piolet d'or en disant aussi que je faisais de la bonne communication sur l'alpinisme grâce aux éditions du Mont Blanc. Du coup, il y avait ça qui était dans le package. Il n'y avait pas que les ascensions, c'était aussi faire quelque chose d'intéressant, enfin de qui partage nos passions avec le public, le grand public.
Il y a une phrase célèbre que j'aime bien qui dit « un bon alpiniste est un alpiniste vivant ».
Oui.
Vous êtes d'accord avec cette phrase ?
Oui, ou un alpiniste qui meurt dans son lit. En gros, c'est ça. Et oui, bah c'est ça, c'est ce qu'on dit. Alors malheureusement, en montagne, parfois, il y a des choses imprévues, mais comme partout.
Vous arrivez à 65 ans, en pleine forme, avec vos 10 doigts de pied, rien à geler. C'est assez rare quand même dans le milieu des alpinistes. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez dans une telle forme alors que vous avez fait des choses aussi dangereuses ?
Oui, j'ai le corps usé quand même. J'ai 3 prothèses. Mais bon, je rebouge comme avant. Mais je pense que j'en fais moins aussi que, par exemple, un guide de montagne, il est tous les jours dehors, quoi, à grimper, à emmener des gens. Les alpinistes professionnels, souvent, sont guides de montagne. Moi, j'ai pas été guide de montagne et du coup, je fais autre chose. Si je vais pas grimper pour moi, je vais lire, je vais faire autre chose. Enfin, et je pense que ça use moins. Et moi, je pense que j'ai un profil assez prudent, très prudent même. Donc, j'ai toujours eu beaucoup de marge à chaque fois que j'envisageais des courses et même encore aujourd'hui. Même si j'estime que c'est très facile, je me prépare. Je vais pas n'importe comment. Je vais demander à des copains. D'ailleurs, c'est comment la sécurité. Enfin, qu'est-ce qu'il y a comme point d'assurance? Est-ce que je dois emmener quelque chose? La longueur de la corde. À quelle heure t'as attaqué? À quelle heure tu descends? À quelle heure? Enfin bon, je me renseigne sur tout pour être sûr qu'au moment où je fais l'ascension, bah c'est tranquille quoi. On n'y prend que du plaisir du coup à la fin Et puis, surtout, on se fait pas mal.
Vous diriez que vous êtes une aventurière prudente ? Ça vous définit bien ?
Ouais, je suis une aventurière prudente. Enfin, je suis aventurière, mais en ayant tout prévu, presque. Donc, c'est l'aventure, quand même, mais en ayant quand même bien balisé tout pour que ça se passe comme j'ai envie que ça se passe.
Et revenir vivante.
Et voilà, sans déchirer le pantalon, diraient certains copains.
Merci, Catherine Destivelle.
Merci Nima.
C'était À Voix Nue, réalisation Anne de Pelchin, prise de son Alexandra Bergel, chargée de programme Daphné Abgral, une série de Nima Cartier, disponible sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.